Depuis les Domagos, Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet.
Bienvenue à tous, salut Judith.
Heureuse de vous retrouver, salut Olivier.
Sur Sud Radio, comme chaque semaine.
C'est excellent.
C'est le titre de cette émission.
C'est excellent.
C'est l'histoire de leur passion.
Artistes, artisans, chefs d'entreprise, ils font le pari de la création et le choix de l'excellence. Sud Radio les réunit et vous raconte leur histoire.
C'est excellent et c'est une émission spéciale, en léger différé de la soirée des écrivains, soirée mensuelle avec Sud Radio.
Nous avons le plaisir de vous accueillir au Domagos, l'épicentre de Saint-Germain-des-Prés. Quand on songe à tous ceux qui s'y sont attablés, on a le vertige. Nous sommes tout de même au centre historique de Paris, l'ancienne Lutèce.
Rimbaud, Verlaine, Mallarmé furent parmi les premiers, on s'en souvient, vous y étiez, moi aussi. Vinrent ensuite les surréalistes, emmenés par André Breton.
Et puis les existentialistes autour de Jean-Paul Sartre et Simone de Beauvoir.
Alors les surréalistes, les existentialistes et aujourd'hui les touristes, comme les Parisiens, amoureux de mots, de rimes, de littérature, qui viennent croiser le temps d'un vrai chocolat chaud, les ombres, qui sait, de Queneau, Hemingway ou Picasso.
Les Domagos, institution parisienne qui a su rester fidèle à sa belle tradition d'amour des lettres avec son prix éponyme, décerné pour la première fois en 1933 à Raymond Queneau pour Le Chien d'Ans et l'année dernière à Emmanuel de Varesquiel pour Le Temps de s'en apercevoir.
Ah mais c'est vraiment excellent et on le prouve. Mazarine Pinjot et Pierre Hermé sont aujourd'hui nos invités. Bonjour, bonsoir à tous les
bonsoir,
deux, surtout
bonjour,
soyez
bonsoir.
Les bienvenus.
Merci.
Bonsoir. Mazarine Pinjot, vous venez de publier votre 15e ouvrage chez Julliard et il s'intitule « Se taire ». Vous dire qu'on a aimé le lire est un doux euphémisme.
Se taire, c'est ce à quoi se résout Mathilde, votre héroïne, sous la pression de son entourage, de sa famille. On vous invite, nous, Mazarine, à ne surtout pas faire comme elle et à même faire le contraire avec nous sur Sud Radio.
Pierre Hermé, on a goûté tous vos livres. Déguster tous vos films et on en redemande. Non, plus sérieusement, vous avez su bouger les lignes, bousculer les codes du métier pâtissier, de pâtissier, et vos créations, en un peu plus de 20 ans, ont séduit le monde entier.
Mazarine Pinjot, Pierre Hermé, vous recevoir ici au Domagos est un plaisir. Vous écoutez s'annonce passionnant.
C'est excellent et ça commence maintenant.
Vous qui nous faites l'amitié de nous écouter, voici un livre, tenez, je vais le montrer au micro, qui, je pense, va vous toucher comme nous, vous émouvoir, vous indigner. Il ne m'a personnellement pas lâché du week-end, ce livre, c'est « Se taire, Judith ». Et comme moi, vous ne l'oublierez pas, Mathilde, cette jeune photographe, violée par un illustre personnage que son prix Nobel de la paix conforte dans son sentiment de toute puissance et de totale impunité. Mathilde, à qui son propre entourage conseille vivement de ne surtout rien dire. Mathilde, qui s'est vue mourir et qui sans doute est un peu morte ce jour-là, qu'on aurait bien aimé ensevelir dans son silence et qui malgré tout va renaître. Mathilde, dont la voix porte au fond celle de toutes les autres. Mazarine Pinjot, ce qui m'intrigue beaucoup, c'est de savoir comment vous avez écrit cet ouvrage. Vous avez pu dire à certains de nos confrères que vous l'avez écrit en colère.
Oui, c'est le mot. C'est un sentiment qui m'a accompagnée tout au long de l'écriture. C'est rare qu'il y ait un sentiment qui dure. Alors peut-être que l'écriture l'a fait perdurer aussi. Surtout la colère, en général, ça s'arrête. Puis moi, finalement, quand je suis en colère, ça s'arrête hyper vite, même toujours trop vite. Et j'arrive jamais à aller jusqu'au bout de ma colère. Et en fait, là, je pense que le fait d'aller fouiller dans l'histoire de cette jeune fille qui va tellement subir et puis qui va accepter de subir, parce qu'elle n'a pas beaucoup d'armes pour ne pas subir, m'a voilà, entretenu cette colère. Et c'est vrai que ça a fait voilà, une sorte d'écriture très tendue du début jusqu'à la fin, même si après je l'ai laissé reposer, je suis revenue beaucoup plus apaisée sur le texte, mais oui, il y avait ce sentiment-là.
La fin vous a apaisée? Je la déflorerai pas.
La fin, je ne l'ai pas écrite tout de suite. Ouais. Au début, c'était beaucoup plus noir, mais bon, je ne peux pas non plus trop en parler. Mais après, elle m'a un peu apaisée, oui, je dois dire.
Mazarine, il y a en prologue, comme souvent au cinéma, un plan panoramique qui balaye notre époque pour mieux nous y ramener, avec une formidable justesse, vraiment. Les politiques, les journalistes, les antispécistes, les féministes, les frotteurs de la ligne 13, les prédateurs qu'on reconnaît avec leur faux nez de prédicateur. De peur d'en oublier un seul, il fallait vraiment tous les citer.
Il n'y a pas de raison d'en choisir un plutôt que l'autre, de tous les côtés. Ouais, c'est un peu un prologue qui tire à bout portant sur tout le monde. C'est un prologue très en colère, je reprends le mot que vous avez prononcé tout à l'heure. Le reste est écrit un peu sur un autre ton, mais c'est aussi un prologue qui permet de resituer vraiment l'histoire dans un contexte ultra contemporain et en même temps un petit peu à côté, parce qu'il est écrit au passé, comme si on était déjà beaucoup plus loin. Et donc voilà, ça met l'histoire dans un espace-temps un peu bizarre. Et ensuite, oui, je pense que dans cette affaire qui est MeToo et qui a été une grande affaire importante et nécessaire, il y a eu aussi beaucoup de dérives. Et dans ce gros, dans cette espèce de chose en fusion, il y a eu des pots cassés. Et c'était, je pensais, intéressant de voir un peu tous les aspects. C'est ça que permet un livre en général.
C'est
et
intéressant.
Un roman.
Est-ce que tous ces personnages, justement, ils concourent à l'hystérie du moment, à cette prise de parole généralisée, ou est-ce que finalement, derrière le brouhaha du monde, comme vous disiez, la continuelle souffrance des femmes, est-ce que ce monde-là, il est aussi celui du silence? Est-ce que cette parole libérée comme ça, c'est pas finalement le silence aussi quelque part?
Absolument, je pense que ce brouhaha permanent qui est celui de la toile, des réseaux, d'une forme de médiatisation du temps réel, fait que à force de bruit, on n'entend plus rien. Et ce qu'on devrait entendre, c'est des choses malheureusement qui demandent du temps à être expliqué, à être développé, déployé. Et ce temps-là, il n'existe plus dans l'espace public. C'est très difficile d'arriver, il faut le reconquérir, quoi. Et donc, en effet, je pense que malheureusement, derrière ce bruit assourdissant, le silence est permis d'une certaine manière justement parce qu'il y a un bruit assourdissant. Alors en même temps, il ne faut pas nier non plus l'éclairage qu'a permis MeToo et cette espèce d'autorisation de la parole, de protection même d'une certaine parole grâce à ce mouvement. Mais ça ne suffit pas, évidemment ça ne suffit pas, donc il faut continuer ce combat-là et voilà, c'est le travail plus souterrain des uns et des autres et parmi eux des écrivains.
Mais c'est toute la pertinence justement de cet ouvrage, Se taire, hein, pour ceux qui nous rejoindraient, le nouveau roman de Mazarine Pinjot chez Julliard, je l'ai bien dit, c'est que tout d'un coup, vous nous rappelez à la nécessité du temps de la littérature, de ce nécessaire recul.
Oui, absolument. Je pense que la littérature, c'est une forme de résistance vraiment en lien avec le temps. Mais la pâtisserie aussi, je pense qu'on pourra en parler parce que.
Mais on va en parler.
En fait, du temps, je sais, on va en parler, c'est sûr, mais du temps, ça, je sais pas. Mais oui, la question de l'élaboration, du travail, de la complexité, de pouvoir créer des personnages qui eux-mêmes sont pas tout noir, tout blanc, qui vont évoluer dans le temps, qui seront pas figés parce qu'à un moment donné, ils auront posté telle chose sur la toile qui restera toute leur vie. Enfin, tout ça, c'est encore une liberté extraordinaire que peut se permettre le romancier, mais qui est un luxe. Et c'est le romancier qui se le permet, mais c'est aussi le lecteur qui prend le temps, hein, bien sûr, parce que le temps de la lecture aussi, c'est une temporalité qui est un petit peu résistante par rapport à l'immédiateté qui nous est imposée. Donc oui, moi, je suis très convaincue que de ce point de vue-là, l'écriture est une forme de résistance et que la lecture est une forme de résistance.
Merci de l'avoir dit. C'est ça. Sud Radio, on parle vrai. J'adore entendre ça. Autre histoire, Judith.
Oui.
Autre histoire qu'on a eu envie de partager avec vous, celle justement de Mokaya. Ça va rappeler quelque chose à Pierre Hermé.
C'est la Made in French Tech.
Sud Radio, c'est excellent. Made in French Tech.
Alors, c'est l'histoire de trois ingénieurs en aéronautique et passionnés de pâtisserie. C'est l'histoire de Mokaya, une start-up du genre high-tech et gourmande.
Très gourmande, qui a eu l'idée d'un projet assez étonnant. Alors ils étaient, il faut bien figurer l'histoire, sur les bancs de l'université. Il y a d'abord Johan qui a conçu sa propre imprimante 3D. Et il la connaît l'histoire, Pierre Hermé. Dans le but à l'époque, c'est assez étonnant, c'est un rêve de môme, de fabriquer sa propre fusée spatiale.
Il a ensuite rencontré Geoffrey, qui aidait les étudiants à monter leur start-up. Et Bordan les a rejoints. Des copains, on vous dit, c'est bien ça qu'on vous dit, qui ont su conjuguer leurs talents et mettre leur brillant cerveau en ébullition.
Et là, ils ont eu l'idée de concevoir des moules, c'est tout bête, hein, à l'aide de leur imprimante 3D, mais des moules qui seraient ensuite utilisés par des chocolatiers illustres comme vous, Pierre Hermé, pour concevoir des pièces tout à fait inédites en chocolat sur mesure. La seule limite finalement étant l'imagination de ces mêmes chefs pâtissiers, cuisiniers émérites.
Et cette idée incroyable,
c'est la rencontre entre le talent du pâtissier et le talent de l'ingénieur et la créativité aussi de leur côté. Donc
c'est ça, et d'ailleurs c'est pour ça qu'ils vous ont séduit, hein, parce que ils ont séduit plusieurs chefs, dont vous, qui n'êtes pas n'importe qui. Mokaya, c'est basé à Cesson en Seine-et-Marne, oui. Et ils ont été lancés il y a 2 ans. C'est une start-up qui est aujourd'hui présente dans 7 pays et qui bénéficie, c'est bien vu, de la popularité de la pâtisserie sur les réseaux sociaux pour continuer à rayonner.
Et moi, je dis vive la France dans ces cas-là. Alors, c'est excellent. On va reprendre un chocolat et on va se retrouver juste après avec Mazarine Pinjot et Pierre Hermé.
À tout de suite.
Depuis les Deux Magots, Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet.
Merci d'avoir choisi Sud Radio, c'est excellent.
C'est le titre de cette émission.
C'est excellent.
Artistes, artisans, chefs d'entreprise, c'est l'histoire de leur passion.
Nous sommes...
aux Deux Magots.
Oui, mais d'accord. Au cœur de Saint-Germain-des-Prés, on va peut-être laisser parler Monsieur Hermé, qu'on entend.
Non, mais
j'avais envie d'entendre, moi, ce qu'il était en train de dire.
Qu'est-ce que vous étiez en train de dire, Pierre ?
J'étais en train de faire la description des macarons.
Alors, on peut en avoir une.
À Mazarine.
À votre copine de table.
Voilà.
Et voilà. D'accord,
alors,
on est dissipé.
Comme copain de table, Pierre.
C'est n'importe quoi. Parce qu'un macaron, l'effet que ça fait tout d'un coup.
Moi, je veux bien en avoir un au choix en description, là. Un seul.
Alors, nous sommes aux Deux Magots. Illustre maison, mais oui, absolument.
Les Deux Magots.
Voilà, ça c'est un macaron.
Merci.
Un deuxième peut-être.
Illustre maison attachée au moins à deux traditions, l'amour des belles lettres et du chocolat chaud.
C'est vrai.
Préparé à l'ancienne avec des tablettes de chocolat. Vous avez goûté, vous approuvez Pierre Hermé le chocolat chaud?
Il est très très bon ici. C'est super bon.
À l'ancienne, hein.
Ça aussi, ouais. C'est très très bon.
Nos grands-mères le faisaient comme
alors,
ça.
Alors, à l'ancienne, on peut. Je connais deux définitions à l'ancienne. C'est-à-dire quand il est bien épais, quand il est fait avec du chocolat, du vrai chocolat, de la tablette, pas du cacao poudre. Et puis à l'ancienne, pour moi, c'est aussi fait à l'eau, parce que le chocolat chaud se fait à l'eau, et pas au lait ou à la crème. Mais après, il y a des gens qui aiment bien mettre un peu de crème ou de lait, mais moi, je le fais à l'eau.
Ça,
c'est là
peu,
qu'il
ça,
est,
hein.
On a vraiment le pur goût du chocolat.
Mazarine plutôt qu'à l'école, eau ou lait.
Ah non, mais moi
non,
je
c'est
connaissais
important
même,
quand même.
Je savais pas qu'on pouvait le faire à l'eau, mais c'est génial, mais je suis tellement contente de l'apprendre, je vais l'essayer dès demain.
Sinon, c'était plutôt lait jusqu'à présent.
Bah, ouais, j'avais pas beaucoup d'imagination. J'avais pas pensé à autre chose. En fait.
Dans c'est un métier.
Pierre Hermé, deux faits majeurs à retenir dans votre actualité. Vous avez été fait commandeur dans l'Ordre des Arts et des Lettres le 23 septembre dernier. C'est le ministre de la Culture, l'excellent Franck Riester, qui vous a remis l'insigne. Et puis, et on va choisir entre les deux, on va commenter ou l'un ou l'autre, ou peut-être même les deux. Vous avez présenté la semaine dernière au Royal Monceau une bûche de Noël absolument exclusive. Vous l'avez baptisée Agapé. J'adore le nom, elle est belle comme une fête foraine. Alors, on parle de quoi ? De l'insigne ou de l'agapé ?
On peut parler de l'agapé.
Oui, c'est bien aussi.
On parle de ce qu'on peut goûter. Et agapé, c'est un mélange citron jaune. Gelée de citron, ce que j'ai appelé fruits d'hiver, ça veut dire des fruits secs, des fruits confits, des fruits moelleux, et puis du pain d'épices. Et donc on est vraiment dans Noël, pain d'épices, citron.
Ah oui.
C'est juste. Et dans le citron, j'essaye de travailler à la fois l'acidité, mais aussi le parfum et l'amertume. Pour moi, c'est le citron, c'est un tout.
Et on va parler aussi de la trompinette. Que vous avez créé une trompinette pour les Deux Magots, en exclu, je le précise. Hein, quand
la
même.
Trompinette, c'est une religieuse avec framboise et chocolat. Et en hommage à Boris Vian, nous l'avons appelée la trompinette. Sur le pourtour de la religieuse, il y a quelques notes de musique.
Ah,
et
bien,
la trompinette.
On va lire l'écume des jours.
On le fait. J'ai jamais fait de religieuse d'ailleurs. C'est la première fois que je fais des religieuses. Et pour les Deux Magots.
Moi, ça m'intrigue toujours à chaque fois avec vous. Le point de départ de la création, oui, il y a une commande, bien sûr, j'imagine. Il y a un cadre. Et puis alors, vous gambadez.
Là, c'était une demande de la part des Deux Magots.
Mais
bien par sûr. Exemple, si on prend le macaron,
oui.
Le jardin d'Orisa, à la lie de saké, ça part d'une envie. Moi, j'ai goûté la lie de saké, j'ai trouvé qu'il y avait des parfums, des goûts intéressants, et du coup, j'en ai fait un macaron. Si on prend ce macaron qui est fleur d'oranger, rose et gingembre.
C'est
trois saveurs qui fonctionnent bien ensemble, c'est presque un parfum.
Et c'est lequel que vous m'avez mis en main tout à l'heure, alors ?
Ce que je vous ai mis en main, c'est café, macaron au café bourbon pointu de La Réunion.
C'est pour ça que j'ai aimé.
infusé et une infusion de thé vert aussi. Magique. De thé vert, de café vert.
D'accord.
Vous avez goûté lequel, Mazarine ?
J'ai pas encore goûté, mais
allez-y.
Je goûte avec les yeux.
Qu'est-ce qu'on pourrait lui conseiller à Mazarine ?
Moi, je suis nulle. Ah ouais, mon Lisparant, mais ça, c'est un classique, j'adore. C'est mon gâteau préféré
ça,
du Lisparant. Monde.
Ah, là, tu vas sur le.
C'est un must.
Fleur d'oranger et.
Hein alors, impression.
Ah ouais, c'est dingue. Non mais c'est quand même c'est une expérience particulière. Hein, des goûts comme ça qui sont inconnus. Enfin, c'est le mélange fait qu'il y a une expérience
aussi.
De dingue. Quoi.
Mais Disparant, il a fait le tour du monde celui-là, Pierre.
Ouais. Disparant, c'est le gâteau fétiche de la maison.
Bien sûr.
Je l'ai réinterprété dans différentes catégories de produits. Il y a un cake Ispahan, il y a des glaces Ispahan, il y a un croissant Ispahan. Et j'en ai même fait un livre où il y a plus de 60 recettes autour de cette association rose, litchi, framboise.
Magnifique.
Alors ce qui est très intéressant, oui absolument, j'ai dit
je vous en prie. Dites-moi un truc, on parlait de Mokaya tout à l'heure, cette fameuse start-up. Vous avez eu recours aux nouvelles technologies, à la 3D et tout ça. J'aimerais bien savoir pourquoi et comment, et surtout avec eux, c'est ça, hein, on ne s'est pas trompé.
En fait, le travail de cette start-up, de Mokaya, c'est qu'ils peuvent, nous permettre d'aller plus loin dans la réalisation de moules. Et ils sont tellement malins dans le bon sens du terme, qui trouvent les solutions à tous les problèmes. On a travaillé avec eux pour une création de fin d'année, qui est une pomme de pin, un gâteau en forme de pomme de pin. Et c'était pas évident, parce que dans une pomme de pin, il y a plein de retours, il y a des qui sont difficiles à mouler.
Sans problème.
Il n'y a jamais de problème avec eux.
C'est ça qui est
bien.
C'est ça qui est sympa, ouais.
Ils ont que des solutions.
Quand on a un interlocuteur, on lui pose des problèmes, il n'y a que des solutions, c'est formidable.
C'est merveilleux. Mais en même temps, la pâtisserie, c'est presque un art d'ingénieur, tellement c'est pointu et c'est tellement précis et tout, non enfin, moi, c'est ça qui fait que je ne ferai jamais une pâtisserie.
C'est vrai que le travail de pâtissier est un travail qui est très mesuré. Ouais. On pèse tout, on mesure tout. Mais c'est aussi ce qui rend le gâteau reproductible. Et par exemple, à partir du moment où j'ai mis en œuvre cette recette, je sais que grâce à cette recette, au code que représente la recette, je sais que tous les jours, il va être réalisé de la même façon. Et c'est ça qui est magique avec la pâtisserie.
Et vous cuisinez, vous, Mazarine ?
J'adore cuisiner, mais je fais des gâteaux, je ne peux pas faire une pâtisserie. Ça n'a rien à voir.
La pâtisserie, c'est une œuvre d'art. Hein, c'est
mais
vrai,
oui, c'est parce que justement, le gâteau, on met 3 cuillères de farine, 5 de sucre. Bah, si la cuillère, elle est trouée, c'est pas grave. Non, mais... Pardon, Pierre. Non, mais je veux dire, on fait un gâteau raté, quoi. Et c'est toujours bon. Ça. C'est comme la tarte tatin. Ça a commencé par une erreur, quoi.
C'est une erreur.
Mais la pâtisserie, mais jamais j'essaierai, quoi. Jamais. Moi, j'aime faire des plats en sauce qui mijotent pendant des heures. On peut rajouter de ci, rajouter de ça, mais sans jamais compter, parce que sinon, c'est trop angoissant, quoi.
C'est quoi votre gâteau? C'est le gâteau yaourt qu'on fait tous?
Non, en fait, pour de vrai, je fais pas beaucoup de sucré. Je suis meilleure en salé.
On va échanger tout à l'heure. Mais elle est gourmande, cette émission. Hein. Mais c'est ça, l'excellence française. On aime la bonne chère, on aime se régaler. On est gourmand.
On est très gourmand ici. Surtout au Domago, à Paris.
Bah, fortiori, oui.
Et d'ailleurs, on va en venir à notre chère Valérie Salvi.
Oui, tout de suite, c'est l'art et la manière.
Et Valérie va nous parler d'amour et de danse à deux, place au tango.
L'art et la manière avec Valérie Salvi. Vous savez qu'on reçoit beaucoup de courriers Sud Radio. Valérie, elle revient quand? Eh bien, elle revient chaque semaine. C'est une exclusivité, c'est excellent. On vous écoute, Valérie. Mon petit bouchon.
Aujourd'hui, je vais vous parler du tango. Le tango, c'est puissant, c'est fort, c'est triste aussi. C'est l'amour, mais un amour où la mort est omniprésente. Le tango, c'est universel. C'est tout à la fois, c'est une musique et une danse. La légende veut qu'à la fin du 19e siècle, dans les Pyrénées françaises, une jeune femme seule, ce qu'on appelait atrocement une fille-mère, mit au monde un enfant qu'elle prénomma Charles Gardès. La jeune mère, rejetée par sa famille, décida d'émigrer en Amérique latine. Et c'est donc dans le port de Buenos Aires que l'enfant grandit. Cet enfant, ceux qui aiment le tango, le connaissent déjà sous le nom hispanisé, c'est Carlos Gardel. Et c'est sans doute le chanteur français de tango, enfin le chanteur français tout court, le plus connu au monde. Il est venu chanter en France à Paris, au Palace, dans les années 30, un lieu mythique déjà, comme chacun sait. « Un vrai homme ne pleure jamais », chante Carlos Gardel dans une de ses chansons. Il s'adressait sûrement aux hommes des porteños, les hommes du port, les hommes des départs, les hommes de la mer. Vont-ils revenir? Mais la force et la puissance de ces chansons peut donner envie de pleurer, même des larmes qu'on ne voit pas. Quand on va se recueillir sur la tombe de Carlos Gardel à Buenos Aires, la tradition est d'allumer une cigarette et de la placer entre ses doigts. Que ferait-on aujourd'hui? J'ai toujours aimé le tango. Le tango, c'est volcanique, c'est magnifique, c'est métissé. Dans les orchestres de tango, les guitares sont d'origine espagnole ou italienne. Les violons viennent de la Mitteleuropa et les pandoneos viennent d'Allemagne ou d'Autriche. Quant à la danse, enfin le tango, on le dit fille de la danse milonga et on lui attribue donc des origines argentines. Le monde entier y est présent. Il y a un petit peu de son des Caraïbes aussi, j'avais oublié. C'est une danse de couple et de désir, de sensualité extrême, d'émotion extrême. Une danse qui doit s'apprendre. Elle est faite de pas précis et de directions que l'on suit, imposées par l'homme, cela va sans dire. Les femmes y sont belles, en robe à talons, toujours en talons. Alors, si vous aimez comme moi les vibrations du tango, le voir jouer, le voir danser, le voir exceller et l'admirer, eh bien le 24 novembre se déroule dans les salons d'honneur de la ville de Levallois-Perret, le championnat international du tango argentin. Les gens du monde entier viennent concourir, que les plus beaux gagnent. Alors, le ticket d'entrée est de 20 euros, il donne le droit de participer à l'événement, à tout l'événement, très tard, jusque tard dans la nuit, et on peut même danser après le spectacle.
Oh, merci, mais merci Valérie Solvi, on est sûr de vous y retrouver alors.
Venir danser avec vous,
bah. Oui, c'est pas mal ça. Et je crois d'ailleurs, vous dites, je pars sous votre contrôle, je crois que le tango, on admet que la femme conduise.
Non, c'est le contraire. C'est admis,
bien sûr.
En fait, la femme peut ne pas savoir la danser.
Ouais.
Si elle est vraiment puissante, elle n'a même pas besoin de connaître comment la danser.
Ah. Vous le dansez ?
Pourquoi pas ? Ça dépend de l'homme.
Donc le 24 novembre, c'est une très belle réponse. Le 24 novembre donc à Levallois-Perret.
Voilà, dans la salle des fêtes.
Chez Patrick B. D'accord, oui. C'est noté. Merci beaucoup Valérie Solvi, l'art et la manière.
Merci Valérie.
Toujours un plaisir, un enchantement, un ravissement sans cesse renouvelé. On se retrouve la semaine prochaine. On fait comme ça ?
À et la là, semaine prochaine.
Oui. Ben voilà, très bien. On se retrouve nous dans quelques instants. C'est excellent, on revient très vite avec Mazarine Pinjot qui vient de publier, je ne le dirai pas assez. Il faut absolument lire ce livre à votre tour, Se taire, paru chez Julliard. Et puis Pierre Hermé, à tout de suite.
Depuis les deux magots. Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet.
Si vous nous rejoignez... Bienvenue sur Sud Radio, comme chaque semaine.
Comme vous le dites bien, c'est excellent.
C'est le titre de cette émission.
C'est excellent.
C'est l'histoire de leur passion.
Artistes, artisans, chefs d'entreprise, auteurs, romancières, même parfois, et ça tombe bien, c'est le cas ce soir, ils ont fait pari de la création et le choix de l'excellence. Sud Radio les réunit, tout simplement. Mazarine Pinjot, vous êtes venue à la rencontre tout à l'heure de vos lecteurs, de vos lectrices, au moment où donc sort votre 15e ouvrage chez Julliard, Se taire. Je suis un peu curieux, qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce qu'elles vous disent ?
Je ne dirais pas. Non, c'est très variable. Ça dépend s'ils l'ont lu ou pas avant, déjà. S'ils l'ont lu, c'est souvent des choses assez intimes, justement, qui se passent, des récits de vie. C'est fou ce qu'autorise la littérature, en fait. Une intimité incroyable en une minute, alors que ce sont deux personnes qui ne se connaissent pas, un écrivain et son lecteur, et tout à coup, il se dit des choses vraiment très, très fortes, très, très lourdes même, qui ont un poids. Et ça, c'est vraiment ce que permet un ouvrage, pour le coup. Et voilà, on reçoit ça. On ne sait pas toujours comment le faire, parce que parfois, c'est vraiment... quelque chose d'important, enfin, on le sait, on l'entend, et en même temps ça, c'est un grand bonheur aussi de pouvoir permettre cette rencontre-là grâce à l'écriture,
quoi. Ça libère la parole.
Ouais, je
pense circule,
vraiment.
Bien sûr.
Un roman qui s'appelle Se taire vaut mieux. Hein.
Ouais, mais c'est vraiment ça. Non, mais c'est ça que ça fait. C'est marrant parce que c'est vraiment ça que ça fait, quoi. Ouais.
Et d'ailleurs, certains de nos confrères ont voulu résumer ce livre à une possible analogie avec un fait similaire survenu dans votre entourage proche. Est-ce qu'ils ne sont pas passés à côté de l'essentiel du livre, en fait, finalement ?
On passe toujours à côté de l'essentiel quand on veut raccrocher absolument un livre à une actu. Il y a toujours une actu qui est quelque part dans le livre, parce qu'on part forcément de ce qu'on entend, de ce qu'on éprouve. On fait partie de la même population, on est dans le même pays, on entend les mêmes choses. L'écrivain, il n'habite pas sur une autre planète. Donc oui, il est totalement traversé par les mêmes problématiques que tout le monde. Et ensuite, il faut que cette problématique-là vienne rencontrer quelque chose de beaucoup plus intérieur. Sinon, il ne prend pas un an à travailler sur un texte. Il faut qu'il y ait quelque chose de très nécessaire pour lui.
Justement, en parlant de nécessité, je vous coupe deux minutes, mais est-ce que c'est le désir qui fait la nécessité d'écrire, ou est-ce que c'est parler d'un fait justement qui vous touche comme ça ? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné...
Alors la nécessité, c'est compliqué, hein. C'est une vraie question. Je pense que c'est toujours la rencontre entre quelque chose qui est très profond, qui est là, les grandes questions. On a trois grandes questions dans notre vie qui nous habite, chacun d'entre nous, et tout à coup il y a une actualité qui vient rencontrer cette question et qui fait que c'est évident, il faut y aller, c'est une nécessité, c'est cette rencontre là et donc effectivement, bien sûr que l'histoire à laquelle vous faites mention a participé de ce déclic. psychédélique, mais comme d'autres, je dirais, malheureusement. Et c'est le mélange de tout ça qui fait qu'on a envie d'aller créer quelque chose, inventer des histoires. Mais toute histoire inventée est toujours aussi nourrie d'une forme de réel. Sauf que ce que cherche le romancier, c'est pas à traduire, enfin, c'est à traduire le réel, mais dans ses méandres un peu sinueuses et profondes, pas dans ce qu'il a d'actualité, par définition. Enfin, c'est pas son métier de travailler sur l'actu. C'est d'aller à côté.
Est-ce qu'elle vous inspire, cette actu, quand même ?
Bien sûr. En revanche, on est toujours en lien avec l'actualité. Enfin, je dis toujours, moi, je suis toujours à l'ouest. Je ne suis jamais au courant de rien de ce qui se passe. Enfin, en tout cas, jamais en temps réel. Donc, je arrive toujours
c'est
après.
C'est pas plus mal, dira-t-on.
Peut-être, peut-être. Mais donc, bon, voilà, j'arrive toujours après la bataille. Mais il n'empêche que, bien sûr, que ça suscite des émotions, des interrogations et tout. Mais le moment du travail de l'écrivain, c'est quand ces interrogations viennent aller creuser derrière, quoi. Et donc c'est les deux, enfin, en fait c'est toujours un dialogue entre les deux, mais de vouloir réduire justement tout ce travail là à juste mais qui a fait quoi, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant. C'est marrant, enfin moi aussi ça m'intéresse toujours, mais disons que c'est assez réducteur sur ce que c'est qu'un travail d'écriture, quoi.
Oui, je trouve que vous les observez vachement bien. Pardonnez-moi ma trivialité, les journalistes, nos confrères. Vous les dépeignez assez justement, je trouve. Et c'est surtout pas un reproche. De façon plus générale, pour en revenir à votre écriture, à votre inspiration, j'ai le sentiment, vous me dites si je me trompe, Mazarine Pinjot, que de façon assez régulière, le silence, le secret jalonne votre œuvre. C'est à croire que finalement, on ne tourne jamais complètement le dos à son enfance.
Ouais, j'allais dire malheureusement, je sais pas si c'est malheureusement, peut-être que c'est bien, mais oui, je pense que l'enfance reste quand même la grande matrice à partir de laquelle on continue de s'interroger, de cheminer, de rencontrer, et tant qu'on n'a pas fait le tour, je crois qu'on fait jamais le tour de l'enfance, et je crois que surtout que il y a à la fois le temps qui fait qu'on évolue, on se transforme, on se bonifie, j'espère. Et puis, il y a quelque chose qui est justement atemporel, qui est on est toujours à côté de son enfance. Elle est toujours là, quelque part, quoi. Et heureusement, pour pouvoir raconter des histoires, parce que finalement, c'est une source inépuisable. Et oui, moi, la question du secret, du silence, effectivement, pour revenir à la question précédente, dès que je rencontre quelque chose dans l'actualité qui vient vraiment faire écho de manière très forte à ça, et il me semble que tout à coup il faut écrire quelque chose là-dessus, et voilà, mais c'est bon, c'est l'histoire de toutes les vies, je pense qu'on fait jamais le tour de son enfance.
Et pour en revenir à l'ouvrage, c'est patineuse extraordinaire, mais quel personnage.
Ah oui.
Quel personnage. Elles font du roller, c'est du roller derby. Ouais. Vous les avez rencontrées.
En fait, j'ai une grande amie que j'adore,
oui.
Qui est plus jeune que moi. C'est à la fois une amie et ma petite sœur, quoi. Et elle fait du roller derby, donc elle connaît par cœur ce sport. Et évidemment, je lui ai demandé des conseils. Je lui ai dit, mais alors, vas-y, explique-moi les règles, parce que j'y comprends rien. Et plus que les règles, la culture, qui est une culture hyper féministe, hyper politique, hyper engagée, et c'est des Walkiri, quoi.
Elles ont des noms de guerre, c'est extraordinaire.
Elles sont géniales, ouais. Mais elles jouent toujours sur les mots, ouais. Et elles sont belles et sexy en même temps, elles sont hyper féministes. Non, c'est un monde absolument fascinant.
Pour vous expliquer, Jules, vous qui m'écoutez, vous voyez Rollerball ?
Oui.
Bon, bah, le roller derby, c'est un peu ça. Bon, on met personne à mort en même temps, mais enfin voilà.
Mais à ce sujet, j'ai une question, c'est quoi le féminisme aujourd'hui pour vous, en fait ?
Voilà. Je crois que j'ai jamais su ce que c'était.
Mais
que
c'est
le féminisme,
quoi, la bonne
à n'importe
version,
quelle époque,
en fait, la bonne version du féminisme, ouais, peut-être.
Ouais, c'est compliqué parce que je pense que quand on est engagé dans un combat, il faut de toute façon être dans un message clair. Mmh. Mais qui dit message clair dit forcément moins de complexité, moins d'écoute aux ambivalences. Et moi, la position dans laquelle je suis, qui est plus celle d'une romancière. Et puis ensuite d'une passeuse, parce que je suis prof. Enfin, donc voilà, c'est
prof de philo. Ouais.
Ouais. Enfin, mais c'est en lien aussi avec ça. C'est de justement de pas asséner une vérité. Alors j'ai toujours du mal avec les définitions. Je pense que le féminisme aujourd'hui, si je devais quand même en trouver une, c'est vraiment le combat politique. Je dis bien politique pour une égalité des droits, une égalité des salaires, et tout ça passe effectivement par ce combat-là. Ensuite, il y a des dérives qu'il faut quand même dénoncer, et, justement pour rester dans un féminisme qui soit cohérent.
C'est quand même savoureux parce que vous le dites à un moment donné, ces féministes qui ne sont jamais capables de se mettre d'accord entre elles.
Oui, il y a plusieurs courants.
C'est vrai qu'il y a pas mal de courants féministes.
C'est un peu chez les écolos en même temps.
Ouais,
c'est comme les véganes.
Oui, mais vous remarquerez que c'est les grandes questions aujourd'hui. La question écologique et la question des femmes, ce sont les deux grandes questions.
Bien
et
sûr,
par définition, c'est des gens qui se tapent dessus parce qu'on n'a pas encore dégagé quelque chose de clair et de...
Et Mazarine, j'ai une question un peu particulière. Qu'est-ce qui, selon vous, fait la spécificité du roman français, à part le nombrilisme? On peut en parler ou pas?
À part son nombrilisme chronique.
Vraiment chronique, oui.
Alors, il y a eu ça, mais il n'y a pas que ça. Je trouve que cette rentrée littéraire, alors j'ai pas tout lu, mais ce que j'ai pu en lire, il y a quand même beaucoup un retour au roman social, au roman, non pas historique, mais à l'inscription dans l'histoire et à l'attention à l'histoire. Je trouve qu'on est, on commence à en revenir un peu de cette auto-fiction nombriliste. Mmh. Ouais, je trouve qu'il y a une vraie attention faite à ce qui, enfin à la politique en fait. Je crois que tout le monde est très très angoissé,
tout le monde est concerné, hein,
et tout le monde est très très flippé. Ouais. Et je crois que ça se ressent aussi dans la littérature. Ouais.
Mmh. Reste avec nous, Mazarine. Enfin, je vais rester avec nous, Pierre. Mais on va prendre le temps d'une petite parenthèse et prendre le temps de resituer un peu le parcours de trois jeunes entrepreneurs, parce qu'on aime beaucoup ça, nous, à Sud Radio et particulièrement dans cet excellent, qui se piquent de faire du cuir, oui, mais de poisson, c'est étonnant. En plus, ils le font dans une démarche, Judith, éco-responsable. Alors forcément, on va vous en parler.
C'est excellent et c'est le talent de la semaine.
Sud Radio, c'est excellent, le talent, la stratégie de la semaine.
Comment, en partant d'un déchet, faire un produit de luxe? Eh bien, c'est la très bonne question à laquelle trois jeunes entrepreneurs lyonnais, s'il vous plaît, viennent d'apporter leur propre réponse.
La société s'appelle Ictios Cuir Marin de France. Je fais attention parce que difficile à prononcer. Elle a ouvert ses ateliers jeudi dernier à Saint-Fons, près de Lyon. On y va travailler la peau de poisson, si. La peau de saumon, notamment. Oui. Mais vraiment, un cuir souple et résistant, dont le rendu se rapproche du lézard. Je vous regarde bien parce que ça a l'air de vous parler.
C'est bluffant,
notamment
hein,
dans les bracelets de montres haut de gamme.
Alors Benjamin et Gauthier,
il y a même des montres vegan. Hein.
Benjamin et Gauthier venaient tout juste de décrocher leur diplôme d'ingénieur chimiste quand ils ont eu l'idée, c'est un soir au restaurant, du cuir de poisson. Alors ils se sont fournis d'abord auprès de restaurants japonais qui leur ont cédé bien volontiers leurs déchets de saumon, un peu interloqués. Ils se sont fait la main ensuite dans le garage familial de l'un d'entre eux, c'est à Rueil-Malmaison, région parisienne. Et quelques semaines plus tard, ils produisaient leur premier cuir marin.
Ictios se veut en outre résolument verte. Ces créateurs sont donc mis en place, ils ont donc mis en place un circuit non polluant d'approvisionnement en peau, en passant des accords avec des marieurs, des éleveurs de carpes et même une grande chaîne de sushis.
C'est étonnant, hein?
Incroyable.
Et autre choix pertinent, ils ont renoncé au chrome qui sert aujourd'hui, ça on sait, à tanner la quasi-totalité du cuir dans le monde, extrêmement polluant. Ils ont donc mis au point des pigments d'origine végétale.
Et ils prévoient déjà de s'agrandir, évidemment, et d'ouvrir prochainement leur capital à d'autres investisseurs. Et non, leur cuir de poisson ne sent pas le poisson.
Si vous nous rejoignez, vous êtes les bienvenus. Mazarine, tant qu'à faire, Mazarine Pinjot et Pierre Hermé sont les invités de Sud Radio. C'est excellent, on revient dans un instant, toujours au Domago.
A tout de suite.
Depuis les Domago, Sud Radio, c'est excellent. Judith Belair, Olivier Daudet.
Merci d'avoir choisi Sud Radio.
C'est excellent.
C'est le titre de cette émission.
Artistes, artisans, chefs d'entreprise, ils ont fait le pari de la création et le choix de l'excellence.
Cette excellence, c'est l'histoire de leur passion. Nous vous la racontons aujourd'hui depuis les Deux Magots, légendaire café de Saint-Germain-des-Prés à Paris, dans le 6e.
Bravo, des fois qu'on serait paumés. Qui vit d'ailleurs au rythme d'une très belle soirée mensuelle, un lundi par mois, la soirée des écrivains avec Sud Radio. Ce qui explique d'ailleurs la présence à nos côtés. Ah, la police vient nous chercher.
Les sirènes, voilà.
Elle est là, monsieur, elle est là. Avec Mazarine Pinjot, donc, qui vient de publier Se taire chez Julliard, on l'a beaucoup aimé. Et Pierre Hermé, un homme qui décidément nous plaît. Mais oui, Pierre, vous
alors
nous plaisez.
Oui, effectivement, Pierre. Et ce qu'on aime chez vous, c'est surtout que vous avez bousculé les traditions qui ne sont pas peut-être, qui sont peut-être faites que pour être bousculées finalement. Qu'est-ce que vous en pensez, Pierre?
En fait, j'ai voulu faire mon métier comme j'avais envie de le faire. Donc, et effectivement, ça m'a amené à changer des choses dans la pratique. Mais en même temps, en m'appuyant sur... un vrai savoir-faire traditionnel que j'avais appris chez le nôtre. Et donc je me suis juste laissé guider par mon envie de trouver ma propre voie.
Vous n'étiez pas du genre à ronronner en rond, quoi. Hein. L'idée, c'était vraiment de sortir du cadre et de trouver des nouvelles manières de faire. C'était quoi? Alors, l'impulsion, en fait?
Le travail porte à la fois sur la création d'associations de saveurs, aussi dans l'évolution des techniques, dans technique de cuisson, technique de travail des préparations de la pâtisserie, et puis après sur la mise en valeur de cette pâtisserie. On n'est plus dans les décors surannés de gâteaux surchargés, on est dans une certaine simplicité juste pour mettre en valeur le goût.
C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on prend son envol et on se libère de tout ce qu'on projette sur votre
métier?
Je ne
suis pas sûr qu'il y ait un déclic, c'est un cheminement en fait. C'est plus un long cheminement qu'un déclic. Ouais. Oui, une maturation. Et puis, je pense qu'avec le temps, quand on est plus jeune, on veut en mettre plein la vue. Et puis, avec le temps, on devient plus sage, tout en étant pas sage.
Et vous êtes pas sage ?
Pas sage du tout.
Ah, j'aime beaucoup
on
ça.
On peut savoir comment ? On peut savoir comment ou pas ? Comment vous êtes pas sage ?
J'aime bien aller sur des territoires qui ne font pas partie de mon métier. J'aime bien aussi trouver des moyens de collaborer avec d'autres disciplines, parce que c'est extrêmement enrichissant.
Ça, c'est vraiment, je trouve, une marque de fabrique chez vous. C'est vraiment une signature. Vous faites intervenir dans votre propre champ créatif, Pierre Hermé, des gens qui n'ont rien à voir avec votre art. Mais ça va très loin, même, parfois.
Oui, ça peut aller sur le goût, mais ça peut aller aussi sur l'aspect visuel. Oui. Ça peut aller sur les emballages. J'ai souvenir d'un jour où je vais voir une exposition de bijoux d'artistes. Et dans cette exposition, je vois un tout petit bijou de Bernard Venet, qui lui est habitué à faire
des
sculptures extrêmement grandes. Mmh. Et du coup, ça m'a donné envie de lui demander de faire une fève pour la galette des rois. Chose qu'il a fini après quelques temps par accepter. Et puis il m'a dit, mais moi je ne veux pas intervenir que sur la fève. Est-ce que je peux travailler aussi sur l'aspect visuel de la galette ? J'ai dit, ouais. Du coup, ça m'a obligé à repousser ses limites. Parce que les galettes, c'est fait de manière traditionnelle, c'est rayé au couteau, enfin bref. Donc du coup, ça m'a obligé à bouger de ce point de vue-là.
C'est comme si on demandait à Picasso, pardon, de créer une religieuse, quoi. Pardon, je suis obligé de le dire, mais...
Et pourquoi pas
Je suis pas sûr dans ce sens-là, ça marche, mais...
Qu'est-ce que vous pensez de ce dialogue justement entre différents champs artistiques, Mazarine Pacquiao? Moi j'aime beaucoup la démarche de Pierre Hermé, on l'aime beaucoup, c'est très français ça aussi.
Oui, c'est très français et à la fois pas français, il y a ces deux traditions où la France elle est complètement compartimentée, où les gens ne se parlent pas et ils ne veulent pas échanger et tout, mais alors dès que ça se passe c'est formidable quoi. Et puis c'est une liberté d'esprit magnifique, j'adore.
Et puis ça vous étonne à chaque fois finalement?
Oui, parce que par exemple je suis allé voir un photographe un fleuriste au Japon et qui s'appelle Makoto Azuma, et j'ai été vraiment séduit par son travail et du coup je lui ai proposé de faire des séries de photos pour mettre en valeur les gâteaux, et du coup ça a amené un travail complètement iconoclaste, complètement on a fait un livre ensemble, ensuite on a fait plusieurs séries de photos. Et puis après, ça s'est arrêté parce que j'avais envie de faire autre chose, et lui aussi.
Oui.
Mais en tout cas, c'est né d'une rencontre, d'une visite dans un magasin de fleurs. Alors, c'est pas n'importe quel magasin de fleurs, c'est pas n'importe quel fleuriste,
bien
mais
sûr.
Quand j'y suis allé la première fois, j'allais voir un fleuriste et j'ai vu un artiste.
Ah, j'adore. On recevait la semaine dernière, Pierre Hermé, la jeune chef pâtissière du Saint-James, que vous connaissez sans doute, Sophie Bonnefond, à peine 29 ans. Elle n'a pas 30 ans. Et alors, elle sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut pas. Ce qu'elle nous dit en substance, plus tard, elle ne se voit pas forcément la tête d'une grande maison, d'une grande chaîne, mais un établissement modeste, pourquoi pas quelque chose de quartier. Et elle nous disait que beaucoup des jeunes gens de sa génération s'inscrivaient dans cette dynamique, quelque chose de finalement plus modeste. Elle vous étonne, justement, cette génération qui arrive?
Je pense qu'il n'y a pas de figure particulière. Certains ont envie de travailler dans les grands hôtels, des grandes maisons de pâtisserie, et d'autres ont plutôt, pas très loin d'ici, il y a un pâtissier qui s'appelle Sébastien Desgardins et qui fait des pâtisseries formidables dans sa boutique. Et ce qu'il fait est formidable, c'est juste très bon. Donc moi, tout m'intéresse, c'est-à-dire que j'aime bien... En fait, dans n'importe quelle ville ou village, je vois une boulangerie ou une pâtisserie, je traverse la rue, je vais regarder ce qu'il y a dans la vitrine. Parfois, c'est pas très intéressant, mais c'est souvent, il y a toujours quelque chose d'intéressant.
Il y a un truc qui se passe dans la génération actuellement d'ailleurs, c'est qu'au lieu de devenir banquier, trader, docteur, whatever, ils ont envie de devenir cuisinier, boulanger, pâtissier, fromager. Ils ont envie de métier de bouche, de métier de matière, etc. Qu'est-ce que ça vous inspire? Ça vous réjouit ça?
Alors, c'est formidable pour nos métiers, c'est en même temps un devoir. On voit que les émissions comme Le Meilleur Pâtissier suscitent des vocations. On n'a jamais eu autant de reconversions. Encore aujourd'hui, je discutais chez nous, dans notre salon de thé aux Champs-Élysées, avec une jeune femme qui, il y a 2 ans, elle n'était pas pâtissier. Elle a commencé chez nous comme pâtissier il y a 1 an et demi. Et aujourd'hui, elle est complètement autonome, elle sait bien son métier, elle s'occupe d'une petite équipe. Donc
ça permet des reconversions incroyables et étonnantes, parce que franchement, quand on est banquier, qu'on devienne pâtissier par exemple, c'est quand même...
Mais par contre, le fait que tout cet environnement suscite des vocations, je trouve ça formidable.
C'est ça.
On vit une époque formidable pour notre métier, on n'en a jamais autant parlé. Mais ça reste un métier où il faut travailler, et que l'autre jour j'entendais un de mes confrères qui disait: pourquoi vous êtes parmi les meilleurs pâtissiers? Il dit: parce que je travaille plus que les autres.
Et s'agissant de la pâtisserie la française, parce que sans être bêtement chauvin, on aime bien de temps en temps entendre le chant du coq, cocorico, qu'est-ce qui aujourd'hui encore participe de son excellence selon vous, Pierre Hermé? Dites-nous qu'on est encore excellent.
Alors,
d'ailleurs en ce domaine.
On va clarifier les choses, c'est-à-dire qu'il y a une... Dans la cuisine, il y a la cuisine française, la cuisine japonaise, italienne, chinoise, marocaine et compagnie. La pâtisserie, il y a bien sûr des traditions pâtissières dans d'autres pays, mais dans le monde, si vous allez partout dans le monde, ce qui est prépondérant, c'est la pâtisserie française dans les grands hôtels, dans les grands restaurants, dans les hôtels, même moins grands. Ce que l'on vous sert, c'est la pâtisserie française.
C'est l'excellence française, hein. C'est important quand même de le souligner.
Moi, j'adore le souligner, au contraire.
On est dans l'émission, c'est excellent.
Vous nous rassurez, Mazéry Pajot, en disant ça, on n'est pas bêtement chauvin, on n'est pas bêtement cocardier quand même.
Non, mais c'est la vérité, la pâtisserie, c'est d'abord France. Enfin, il y a une culture, une tradition française, quoi. C'est factuel.
Simplement.
Il n'y a rien à voir avec un esprit chauvin ou quoi que ce soit.
Merci. Voilà, ça fait plaisir.
Ou la pâtisserie d'ailleurs, rien à voir non plus, on peut le dire, hein, quand même, pardon.
Mazéry, Pierre, avec vos agendas surchargés, professeur, romancière, Pierre, au fourneau et en même temps toujours à l'affût de nouvelles créations, est-ce que vous avez encore le temps de sortir? Est-ce que ça vous arrive?
Est-ce que vous avez des choses à nous recommander dans notre agenda?
Je vous laisse 20 secondes, voilà. Parce que là, c'est excellent, c'est de radio.
Des adresses de restaurants?
Ah, on va y venir.
Ah ouais,
c'est radio, j'adore, c'est toujours excellent, mais là, c'est le moment, c'est le moment où on sort.
On sort. Allez, j'arrête, promis.
Sud Radio, c'est excellent. L'instant culture.
Sud Radio, c'est toujours excellent. Pour encore quelques minutes, on va partager les bonnes idées de sortie, de lecture, pourquoi pas, au contraire, de musique, vos goûts à vous. C'est une façon aussi de mieux vous connaître. Mazarine Pinjot est en train de chercher Pierre.
C'est l'instant culture, je tiens à le dire, de Sud Radio.
C'est l'instant culture, absolument. Pierre Hermé.
Alors, hier, j'ai écouté le dernier disque de Lana Del Rey.
Bon
choix.
J'ai
bien aimé. C'est bien. J'ai préféré son premier album.
Les premiers sont toujours les meilleurs.
Mais il faut peut-être que je le réécoute plusieurs fois, parce que c'est aussi ça, il faut s'imprégner du son.
Ouais. Elle a fait un duo avec John Bell, là, absolument. J'adore.
Vous voyez, Mazéry.
Ouais.
Bon, alors ça, c'est
tout. Ouais, mais ça, c'est pas sortir, ça, je peux être chez moi en train de regarder
peut,
ça.
Bien sûr.
Mais quelle que soit la reco que vous avez à nous faire, nous sommes tout oui.
Aïe, 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 c'est dur. Mais moi, j'attends les recommandations de Pierre Hermé pour les restos, parce que moi, le truc qui me fait vraiment kiffer pour sortir le soir, c'est quand même le restaurant, quoi.
Ah, c'est pas faux.
Moi, je sors pas beaucoup le soir pour autre chose que pour le restaurant.
Mais
c'est des copains qui viennent dîner à la maison, mais ça, c'est pas frais. Je peux pas recommander ça.
C'est un instant
venez dîner
culture
chez
aussi.
Moi,
c'est ça.
Non, n'y allez pas.
Très bonne adresse.
Un instant culture, un instant gastronomique. Qu'est-ce que vous pourriez conseiller à Mazarine Pinjot, Pierre?
Allez, on va donner trois adresses de restaurants. Mon restaurant fétiche à Paris, le Baratin, dans le 20e,
ouais.
3 rue Jouy-Rouve. C'est simple, ouais. Bon, et on y mange bien, on boit des vins qui sont vraiment bons. Une découverte de la semaine dernière, Origine, dans le 8e, rue de Ponthieu. Et puis une troisième, Fleur de Pavé. Cuisine créative d'un chef qu'on a déjà connu ailleurs dans Paris. Il a eu Itinéraire, Le Temps au Temps. Et cuisine créative, carte des vins remarquable, donc on peut y aller en toute confiance.
Merci Pierre, on va y aller, on a bien noté.
Moi, je vais donner une adresse pour aller faire ses courses, pour préparer à manger, Terroir d'Avenir, que j'adore.
C'est quoi l'adresse?
Alors il y en a plein parce que maintenant ils commencent à avoir plusieurs. Alors moi, celle qui est près de chez moi, c'est celle qui est rue Jean-Pierre Timbaud, mais c'est surtout rue du Nil où vraiment il y a tout, il y a la poissonnerie, la boucherie, le primeur, enfin il y a tout. Et sinon, je sais pas, peut-être des livres parce que j'avoue que
moi j'en ai un très bien. Il vient de paraître chez Julia.
C'est vrai.
Sauter, ça s'appelle.
Merci. Non mais c'est vrai, sinon je suis pas beaucoup.
Mais vous inquiétez pas, tout va bien. C'est déjà pas mal là. Mazarine Pinjot et Pierre Hermé, un grand merci d'avoir pris le temps sur Sud Radio de venir nous voir. Je bafouille pour finir l'émission.
C'est l'émotion, c'est normal. Merci évidemment à toutes les équipes et des deux Magots et de Sud Radio. Les gars, c'est bien vous les meilleurs. On était d'ailleurs tellement bien ici aux deux Magots qu'on reviendra le mois prochain pour une autre soirée des écrivains.
Tout à fait, le mois prochain. Et autres invités, autres histoires de passion et de création. On revient aussi la semaine prochaine, Olivier, avec C'est Excellent.
Plaisir.
À la semaine prochaine, et c'était excellent.
Et d'ici là, évidemment, plein de belles choses, excellentes, passionnantes. Et surtout, merci de rester fidèle à Sud Radio.
À la semaine prochaine.